Salut Pierre.
Salut Marc.
Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un poisson très connu, très emblématique, un carnassier célèbre de nos rivières, le brochet. Comme d'hab, je vais commencer par son nom dans les différentes langues. En italien, il s'appelle Lucio. En espagnol, Lucio aussi. En anglais, The Pike. En allemand, Der Hecht. Hecht, Der Hecht, Pike. Donc, c'est des noms très différents. Pierre, question classique, d'où vient le nom du brochet dans ces différentes langues?
Oui, alors très différents, surtout les deux Lucio, là, auxquels on va arriver. Mais sinon, brochet, c'est en français, c'est un des noms gaulois. On sait qu'il y a une centaine de noms gaulois dans le français, dont lui. Et donc, on a l'adjectif latin brocus, qui est aux dents proéminentes. De là vient une broche ou un broc. Hein. Un broc, c'est parce qu'il a un bec pointu. Il y a même le verbe brocarder, qui veut dire piquer son interlocuteur. Donc brochet, bah, c'est l'animal aux dents qui accroche. Pike en anglais, même chose, on est pointu. Et Hecht en allemand, même chose, on se relie à Haken qui veut dire crochet. Donc un petit rapport d'ailleurs avec le nom du requin en allemand qui est Hai, qu'on reliait aussi un peu à Haken. Pas étonnant quand on sait que pour l'acépède, le brochet est le requin des eaux douces. Il y règne en tyran dévastateur, comme le requin au milieu des mers. Voilà, donc on a toute une famille de mots qui sont différents, mais qui toutes se rapportent à la dentition redoutable du brochet, le brochet carnassier.
Ouais.
Voilà, mais alors on avait Lucio. Alors là, Lucio, tout autre chose. Eh bien, on va retrouver notre ami Ausone, le poète latin du IVe siècle, et son hymne à la Moselle. Nous revoilà dans la Moselle, car parmi les poissons qu'il y a vus, il y a vu le brochet. Et il dit que ce brochet est plaisamment désigné par un prénom latin. Donc, hypothèse d'Ausone, c'est un prénom donné au poisson, Lucius. En effet, Lucius est un prénom latin. On peut même y voir le prénom de Murena qu'on avait rencontré. Lucius Licinius Murena, un consul romain qui a été défendu par Cicéron dans ce qu'on a appelé le Pro Murena. Voilà, c'est une hypothèse. Elle est pas vraiment validé à 100% par les linguistes, donc on ne sait pas trop d'où vient ce nom de Lucius. C'est un petit peu comme le Gai, on a vu que le nom du Gai se reliait plus ou moins au prénom romain Gaius. Voilà.
Pierre, le brochet est un poisson ultra connu. Il a beaucoup de noms que je voudrais dire. Bec de canard, bec de canne, gros bec, becquet, brocheton, brochette, filaton, goulu, grand bec, grand gousier. Tiens, ça fait penser à Rabelais.
Ah oui, tout à fait.
Lanceron, lançon, luceau, poignard, pognot, sifflet, gobe-poisson, fusil, requin de rivière ou d'eau douce.
Voilà, comme le dit la CEPED.
Tant qu'on est dans les comparaisons, Pierre, je voudrais te parler d'un phénomène qu'on appelle en biologie l'homoplasie, à distinguer de l'homologie. C'est un mot qui veut dire quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les barracudas, qui vivent en eau de mer, sont des cousins, sont apparentés aux brochets. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que ces deux poissons se ressemblent beaucoup, ils
Oui.
ont exactement la même forme,
Oui.
et c'est ce qu'on appelle justement de l'homoplasie.
Le museau allongé.
Ils n'ont pas d'ancêtres communs. Et pourtant, ils se ressemblent, c'est la première chose que je voulais dire, hein. Ça pourrait être un de ses autres surnoms, le barracuda d'eau douce. Je voulais aussi dire que son nom scientifique, c'est, avec toi, là, on parle de notre brochet, comment dire, français, européen, on va dire, qui s'appelle le grand brochet, et qui s'appelle Esox lucius, de son nom scientifique. Je voulais dire que le brochet est un des poissons dont l'aire de répartition est la plus répandue dans le monde. Il y a plusieurs espèces de brochets, il y en a beaucoup en Amérique. Et nous, voilà, on a notre grand brochet, notre Esox lucius. Je ne vais pas dire tous leurs noms, mais ils sont assez connus. Ce sont des gros poissons qui peuvent atteindre des tailles, comment dire, énormes, hein. Je crois qu'il y en a qui s'approchent des 2 mètres, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, peut-être,
Il y en
oui.
a qui sont connus pour manger des canards, des canetons, qui viennent gober à la surface comme des silures. C'est un poisson carnassier
Redoutable, hein, c'est sûr.
que les pêcheurs adorent. Toi, qu'est-ce que tu dis dans le livre, Pierre, sur le
Bah,
brochet?
non, mais il y a Esox que tu viens de mentionner à juste titre, le nom de genre Esox. D'où vient ce Esox? Alors, on n'a pas beaucoup de sources, mais c'est à nouveau Pline l'Ancien qu'on va appeler à la rescousse. Et on va trouver dans son livre neuf une citation où il énumère les plus gros poissons d'eau douce et il cite, alors je cite Pline, « Silurus in Nilo, Esox in Reno, Attilus in Pado. » Alors, « Silurus in Nilo », Nilo c'est le Nil et c'est le silure. On le connaît, on en a parlé, c'est l'autre nom du poisson-chat. On sait qu'il y a l'énorme silure glane qui était bien connu à cette époque déjà. Donc ça, on voit. À l'autre bout de la phrase, il y a « Attilus in Pado ». Alors, Pado, c'est le pot, hein, ce qui donne le pot en Italie. Et Attilus, on n'est pas sûr de ce qu'est cet Attilus. Peut-être, selon Cuvier, c'est peut-être un esturgeon. Pourquoi pas? Mais à la limite, ce n'est pas notre sujet de maintenant. Et alors, entre les deux, on a Esox in Reno. Reno, Rhenus, le Rhin. Hein. Et donc, voilà ce mot Esox. Et donc, c'est probablement le brochet qui est là. En tout cas, c'est ce que Linné a choisi, puisqu'il a pris ce nom de genre. Et peut-être y a-t-il un rapport entre ce Esox et des noms du saumon dans d'autres langues, dans des langues celtiques. En breton, le saumon, c'est Eog. Bon, ça ressemble un peu à Esox, et ça pourrait être un mélange de noms entre le brochet et le saumon, c'est pas du tout impossible. Hein.
Pierre, je me suis un peu emporté sur sa taille, j'étais en train de lire pendant que tu disais.
C'est un peu beaucoup.
J'ai dit 2 mètres, j'ai un peu exagéré. Oui. Le plus grand spécimen jamais capturé au monde faisait 152, donc 1m50, oui. 60 cm de tour de ventre, oui, 28 kilos. Il a été capturé et relâché en mai 2004 dans le lac Apisco au Canada. Au Manitoba.
D'accord.
Voilà, donc 1m50. C'est vrai que 2 mètres, j'avais un peu exagéré. Mais on parle dans le passé de mastocs d'individus qui approchaient le 180 cm, notamment en Irlande. Mais il n'y a rien de
détaillé. C'est toujours pareil. Concernant les poissons, on ne trouve plus d'individus aussi grands que, bien sûr, il y a un siècle, à l'époque où on ne les éradiquait pas.
Oui. Très juste, Pierre. Tu as raison. Et c'est la même raison qui font que les populations de baleines bleues, vu que les baleiniers privilégiaient les plus grosses, bah, génétiquement, on n'en trouve plus de très grandes, les baleines bleues, puisque la population des grandes, génétiquement, a été surchassée encore plus que les autres. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à en trouver. Il n'y en a plus que 15 000, 10 à 15 000 des baleines bleues dans le monde. Hein. Déjà, il n'y en a presque plus. Mais les populations remontent lentement. C'est une bonne nouvelle que je voulais dire aussi. Pierre, je lis que, contrairement aux cendres, pour en revenir au brochet, qui préfèrent le fond des lacs, le brochet occupe principalement, en gros, il n'est pas loin de la surface dans la colonne d'eau, et il préfère ce qu'on appelle les milieux lentiques, c'est-à-dire les rivières qui sont lentes, tu sais, où ça s'écoule lentement.
D'accord.
J'ai vu que selon une étude, la présence du brochet est directement corrélée avec la présence de castors, bah, notamment en Amérique du Nord. C'est-à-dire que dès qu'il y a des barrages...
Voilà, ça ralentit.
Ça ralentit. Le brochet, il aime ça. Il est donc corrélé à la présence du castor. C'est intéressant.
Autrement dit, il est pas mal dans un lac. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, on empoisonne les lacs avec des brochets aussi. Hein.
Exact. Je vois que c'est un chasseur sédentaire et solitaire. Mais parfois, ils vivent en petits groupes de 2-3 fripouilles hein, qui écument les lacs et les étangs. Ils peuvent vivre plus de 20 ans. C'est ce que je disais, hein, ils consomment des écrevisses, des amphibiens, des rongeurs, des canetons. Et par excellence, c'est un poisson cannibale. Allez Pierre, pour la bonne bouche, je l'ai déjà dit, notre brochet à nous, c'est Esox lucius, le grand brochet, omniprésent dans l'hémisphère nord, d'accord. Il y a Esox americanus en Amérique, je l'ai dit. Il y en a un qui a un drôle de nom, il s'appelle Esox masquinongé. C'est le plus grand de la famille de tous les brochets, et lui, on ne le trouve que en Amérique du Nord. Voilà, il y a le brochet maillé, Esox niger, toujours pareil, Amérique du Nord. Et puis, il y a un brochet de l'amour, joli nom. Alors lui, si son nom est exact, c'est la frontière entre la Russie et la Chine. Et puis, on a un cisalpinus qui vit en Italie. Et puis, on a même un aquitanicus en France. Très bien Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire sur nos amis les brochets. Je te remercie beaucoup pour ta lumière, je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi, salut.
Salut Marc.
I've seen things you people wouldn't believe.